France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Louis Chédid, qui a incarné dans les années 70 la nouvelle chanson française avec son ami Souchon et quelques autres, fils d'une poétesse. Ancien petit chanteur à la Croix de Bois, il revendique son métier d'autodidacte exigeant dans un dictionnaire de ma vie, où il est aussi question de son étonnante famille. T'as beau pas être beau et tous les succès de Louis Chédid à ce micro dans quelques minutes, juste le temps d'un coup de téléphone à celle ou à celui qu'on aime.
Allô, mon cœur.
C'est moi, mon cœur.
Y as-tu bien dormi?
Mais oui, j'ai bien dormi.
Allô, mon cœur.
Quoi donc, mon cœur?
J'ai rêvé cette nuit.
Moi, j'ai rêvé aussi.
De qui, mon cœur?
De toi, mon cœur.
Moi, de toi, ma chérie.
Tu le dis parce que je l'ai dit.
Mais non, mon cœur.
Vraiment, mon cœur.
Je te le jure, mamie. Tu sais très bien.
Que sais-je très bien?
Que je t'aime à la folie.
Que tu m'aimes à la folie.
Hier, bien moins.
Comment, bien moins?
Oui, bien moins qu'aujourd'hui. Donne-moi mon cœur.
Quoi donc, mon cœur?
Un petit baiser.
Je veux bien le donner, oui, mais pour ça.
Eh bien, pour ça.
Il faudrait que tu sois là.
Alors, mon cœur.
Je t'écoute, mon cœur.
La voiture est en bas.
Quoi, tu es déjà là?
Je t'emmène, mon cœur.
Où ça, mon cœur?
Déjeuner dans les bois.
Je descends, me voilà.
Bonjour, ma vie.
Bonjour, chérie.
Partons en amoureux.
Partons, le ciel est bleu.
Près de l'île Adam.
Oui, cher Adam.
L'auberge nous attend. Après le repas,
ben qu'est-ce qu'on fera?
Ce qu'on peut faire dans les bois,
quand le loup n'y est pas.
Puis à la nuit,
le cœur ravi,
nous regagnerons Paris. Devant ta maison,
devant ma maison,
je te quitterai
avec regret.
Bonne nuit, ma fleur.
Bonne nuit, mon cœur.
À demain au récepteur. Pour savoir, oh mamie,
si tu as bien dormi,
bien rêvé, ma douceur.
Allô, mon cœur.
Quelle est jolie cette chanson de 1957, interprétée par Odette Laure et Jean Valmont, ce qui formait d'ailleurs un vrai couple dans la vie. Elle, merveilleuse actrice de théâtre, de cinéma, mais aussi très bonne chanteuse de chansons et d'opérettes. Et puis lui, Jean Valmont, ce qu'on a vu beaucoup au cinéma, mais qui savait pousser la chansonnette comme beaucoup d'acteurs de cette génération.
Thank you.
Sonntagsreiter, autrement dit le cavalier du dimanche, une polka de Philipp Farbach Jr., un musicien contemporain de Johann Strauss. Il avait d'ailleurs fait partie de l'orchestre de Johann Strauss le père. Et voilà donc un enregistrement de l'orchestre de chambre philharmonique tchèque sous la direction de John Georgiadis.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
La polka, c'était pour nous mettre en train. Et d'ailleurs, l'esprit dansant de la musique, il en sera beaucoup question maintenant avec mon invité qui a toujours chanté des choses profondes, mais en même temps avec quelque chose d'enlevé et de joyeux qui fait aussi le charme de ses chansons. Certaines sont restées très familières. On va les retrouver avec beaucoup de joie. Et puis, il vient de publier aussi un dictionnaire de ma vie aux éditions Kero. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Louis Chédid.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Rappeling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face, quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
J'adore cette chanson depuis qu'elle est sortie en 1981. Alors j'étais content de vous accueillir avec.
Oui.
Et vous y êtes resté fidèle aussi.
Ah oui, complètement. Mais vous savez, ce sont des chansons qui sont comme des cadeaux de la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous avez des succès comme ça, des chansons qui traversent le temps, parce qu'elles datent d'il y a presque 40 ans même, non ? Et vous la passez. Donc ça veut dire que c'est des générations qui ont été touchées par cette chanson.
Vous comprenez pourquoi ?
Non, je comprends pas. On sait jamais pourquoi. On fait jamais des chansons en se disant tiens, je vais faire un tube, sinon on en ferait tous les jours.
Vous voyez ce que
je
veux dire ? C'est ça.
Mais quand c'est le cas, quand c'est des chansons qui touchent les gens, qui les émeuvent et qui les accompagnent sur plusieurs générations, comme c'est le cas de celle-là, c'est un cadeau extraordinaire. C'est peut-être que vous m'auriez jamais invité aujourd'hui si j'avais pas fait ça.
Il y en a quelques autres quand même.
Oui, non, mais bon, vous savez, c'est
J'ai vu aussi que cette chanson, d'une certaine façon, dont j'aime aussi la couleur, hein, c'est pas seulement le texte, la mélodie, une merveilleuse couleur, mais qu'elle avait marqué un peu un tournant dans votre façon de faire des chansons.
Absolument.
dans votre vie à un moment où vous êtes un peu retourné chez vous.
Exactement.
Pour fabriquer vos chansons à votre façon.
Absolument.
Et pas
absolument.
Avec toutes les contraintes d'une maison de disques.
Oui, exactement. Parce que moi, je suis très geek, comme je le dis dans mon bouquin.
Oui.
Et j'adore tout ce qui est studio d'enregistrement, les plugins, l'informatique musicale. Maintenant, ça m'a complètement pris au moment où c'est arrivé. Et j'attendais ça presque. Et donc, Ainsi soit-il, c'est vraiment la chanson qui est faite avec un synthétiseur qui s'appelle à l'époque le Prophète 10. Et Prophète 10, c'était un énorme synthé qui devait peser 30 kilos ou 40 kilos. Mais il avait deux claviers. J'ai cassé ma tirelire pour l'avoir, celui-là. Et en fait, j'ai bien fait parce que j'ai fait Ainsi soit-il, parce que vraiment, j'ai posé mes mains sur le clavier et j'ai eu ce son tout de suite.
Ah oui.
Et ce son m'a évoqué le côté cinéma, les images et tout. Et voilà, j'ai fait cette chanson. Donc, oui, j'adore. Et depuis, j'ai toujours mon studio d'enregistrement. J'ai mes guitares, j'ai mes trucs et je fais ma sauce.
Et double tournant, parce que cette chanson faite à la maison, ça a marqué en même temps votre essor sur scène.
Oui,
puisque
absolument.
Tout ça a continué à l'Olympia tout
exactement,
de suite après.
Exactement, exactement. Oui, c'est ça, oui. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des premières parties, mais il y avait vedette anglaise, vedette américaine et puis la grosse star.
Vedette, ouais.
Et moi, j'avais fait Nicole Croisille, qui est adorable, mais j'étais en vedette anglaise au début. Et,
vous n'aviez pas le temps de vous installer, quoi.
Non, non. Voilà. Au bout de trois chansons, je dégageais, et quand on sait que c'est la quatrième, en général, qu'on commence à sentir le public, on commence à se sentir bien. Et donc, je m'étais dit, c'est pas pour moi ce genre de choses, il faut que j'attende d'avoir une grosse chanson. J'espère que ça arrivera et j'espérais que ça arrive. Et puis voilà.
Et ça s'est passé avec ce disque, Ainsi soit-il,
absolument.
Et avec Jean-Michel Boris,
oui, exactement.
Qui dirigeait alors
l'Olympia. Que j'adore, que je salue, qui est un type que je vénère vraiment.
On le salue effectivement,
ouais.
Jean-Michel Boris. Alors, Louis Chédid, il y a l'expression « zoom arrière » dans cette chanson,
ouais.
Et le livre que vous venez de sortir, hein, « Le dictionnaire de ma vie », il est plein de zoom arrière.
Ouais,
hein.
Bien sûr,
l'enfance
ouais.
y est très présente d'ailleurs.
Très présente, oui.
Ouais.
Mais vous savez, en fait, je crois que, enfin, c'est valable pour tout le monde, mais tout ce qui nous construit, c'est entre 0 et 7. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, mais entre 0 et, disons, 10, 12, peut-être 13, parce qu'il y a la puberté et tout ça. Mais après, bon, on vit sur cet acquis-là, hein, et sur ce qu'on nous a appris et ce qu'on a ressenti quand on était petit, quoi. Et on continue. Enfin, moi, je sais que je pense dans la tête, en tout cas, aussi enfantin, mais avec une apparence d'adulte. mais dans la tête, je suis resté complètement enfantin. Et c'est vrai que l'enfance a une... Quand on m'a proposé de faire ce dictionnaire de ma vie...
Dictionnaire, donc un article par lettre,
oui, voilà,
de l'alphabet, choisi par vous.
C'est un abécédaire, en fait, et chaque auteur choisit donc... par rapport à B, C, D, etc., choisit un mot, et à partir de ce mot, il raconte un petit peu ses impressions, ses sentiments, ses émotions, un peu de sa vie, évidemment.
Alors, on va revenir au dictionnaire, mais on va aussi raconter un petit peu votre histoire en chanson, en musique.
D'accord.
Et je vous propose de plonger... Alors là, en fait, c'est très loin, avant votre naissance, mais je pense que ça vous parlera quand même.
Les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient en knickerbocker ou en robe blanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tartine, pâtissier, pas plus que les bois n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman ne croit. Viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin, y'a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Viennent la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
Les parents s'ennuient le dimanche.
Le dimanche, les parents s'ennuient avec leurs faux cols,
leurs lorgnons
et leurs barbes blanches.
Le dimanche, les parents s'ennuient.
Vienne, vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi.
Car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
J'aime beaucoup la chanson, comme je vous disais. Je crois que j'ai, comme je n'ai pas une grande culture de musique classique, mais je ne sais pas si ça s'appelle la culture, mais j'ai une passion de la chanson. Donc je connais vraiment bien la chanson. Je l'écoute depuis toujours. Je sais pas. La chanson de qualité, j'adore ça. J'adore Traîné, j'adore Ferré, Gainsbourg, Brel, Brassens, Souchon, Jonas, Perrin. Enfin, je les connais bien et je connais vraiment à fond leur musique. Et quand et pour lui, je crois que j'aurais été plutôt sévère, je crois que j'aurais été plutôt inquiète de la qualité de ce qu'il faisait. Et je dois dire que dès le début, j'ai été extrêmement, enthousiaste, oui. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il parle de choses graves, comme de la mort, de l'amour, de la vie, sans enflure, avec l'air de ne pas y toucher. Et pourtant, il touche à fond. Et ce qui me plaît par opposition, c'est cette musique qui est en même temps une musique dansante. Vraiment, dès que j'entends sa musique, j'ai envie de bondir, j'ai envie de faire de la gymnastique, j'ai envie de bouger. Et en même temps, ses paroles sont percutantes et disent quelque chose et ont un sens. Alors, je crois être assez lucide.
Votre mère, la grande poétesse, ouais. André Chédide, qui parle de vous, Louis Chédide, ouais, de vos chansons et de la chanson en général.
J'avais jamais entendu ça, ça m'aimait beaucoup. Parce que c'est vraiment, elle est trop mignonne parce que, évidemment, elle était très, c'est une maman. Alors, évidemment, on s'aimait tellement que, mais je pense quand même qu'elle avait du recul et que, il y a certaines chansons, par exemple, qu'elle aimait moins, elle me disait ça, j'aime moins, tout ça, machin.
Mais, en tout cas, d'abord, je trouve qu'elle résume très bien l'esprit de vos chansons, à la fois cette gravité et ce côté dansant en même temps.
Ouais. Ce côté, oui, absolument.
Ce qui est assez rare, parce que j'ai envie de dire, avant vous, Louis Chédid, dans la chanson française, il y avait la chanson engagée, mais qui était une chanson à texte un peu poussive. Et puis, il y avait la chanson dansante qui était légère et qui parlait de rien.
Absolument.
Vous avez conjugué les deux.
Oui, mais regardez par exemple la chanson de Traîné qui est passée juste là. Ouais. Finalement, elle dit des tas de trucs.
Et
celle-là, c'est pas la plus gaie de Traîné, ça c'est clair, mais il a dit des choses incroyables dans cette chanson.
Ouais. Et votre mère, donc, André Chédide, qu'on connaît évidemment pour son œuvre littéraire, adorait la chanson. Donc j'imagine que vous avez un peu baigné, enfant,
beaucoup,
dans la chanson.
Par exemple, quand elle parle de Brassens, je me souviens très bien, j'ai des souvenirs de Brassens. Quand Brassens a fait son premier disque où on voit sa tête comme une espèce de grenade avec une mèche allumée, et, je ne sais pas si vous voyez cette pochette, et avec une flamme comme si une bombe qui allait exploser. Et il y avait le gorille là-dedans, etc. Il y avait beaucoup de gros mots. Et donc, normalement, les enfants n'avaient pas le droit d'écouter. Donc, mes parents cachaient le disque. Ils l'écoutaient en loose day et ils cachaient le disque après pour qu'on ne le trouve pas. Et le jeu avec ma sœur, c'était justement d'aller, quand il sortait le soir, d'aller sortir ce disque et de le mettre sur la platine et d'écouter c'était quoi les gros. Et nous, ça ne nous choquait pas parce que, en fait, finalement, les enfants sont beaucoup moins conservateurs ou
pudibons
que les parents, parfois, qui interprètent beaucoup de choses. C'était des gros mots, mais bon, c'était pas non plus. Ouais. Puis on comprenait pas que le juge, ce qui lui arrivait à la fin du gorille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on comprenait pas, voilà. Mais ça nous amusait beaucoup. C'est ça aussi la force. Brassens, c'est vraiment un bon exemple.
Une chanson intelligente et en même temps très vive.
Extrêmement bien écrite, comme des fables de La Fontaine ou des. Et une musique quand même qu'on retient, quoi, des mélodies très fortes.
Alors, le monde musical des parents Chédid, donc c'était plutôt la chanson populaire, mais ça vous a pas empêché d'entrer, alors dans un genre très différent, au petit chanteur à la croix de bois.
Oui. Ça, c'est parce que c'était mon échappatoire, c'est-à-dire que j'avais une scolarité absolument...
Catastrophique.
Oui. C'était un bagne pour moi, et donc, petit chanteur à la croix de bois, ça vous permettait d'abord de sécher des heures de cours avec la bénédiction des curés, et puis aussi, j'ai fait ma première tournée avec les petits chanteurs à la croix. Ma première tournée en Espagne, et il y avait un monseigneur qui s'appelait Monseigneur Maillet, qui était le chef de la manécanterie qu'on appelait. Et il nous avait emmené en car, comme ça, faire une tournée en Espagne. Et c'est vrai que j'ai adoré ça parce que Parce que c'est 3 semaines.
Donc, c'est des bons souvenirs, ça, oui.
Ah, c'est très, très bon souvenir. Très bon souvenir. Et puis le fait de chanter aussi. Et puis alors, la cruauté de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on mue et c'est terminé, on est. Comme The Voice, quoi, c'est pareil.
Alors, ce qui est singulier aussi, c'est que malgré tout, votre mère étant écrivain, restant parfois, vous le racontez, avec sa robe de chambre, à taper à la machine le matin, même dans son lit, vous n'aviez pas une vie tout à fait ordinaire. Et très tôt, vous êtes identifié à ce modèle d'artiste. C'est d'ailleurs le nom du premier chapitre de votre livre. Vous ne saviez pas quelle sorte d'artiste vous seriez, mais vous saviez que vous vouliez être artiste dès votre petite enfance.
Je savais que je voulais faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais me lever, mais pouvoir me recoucher. C'était ça être artiste.
Et,
être libre, complètement libre. Parce que j'étais tellement tenu par la scolarité, parce qu'on est tenu quand même par des horaires et tout, des devoirs et des heures de colle et des machins de trucs. Et moi, mon rêve, c'était, je me disais, quand je serai grand, je ferai exactement ce que je veux. Et j'ai eu la chance d'y arriver, c'est ça qui est
Voilà, mais en passant par quelques chemins de traverse, puisque ça a commencé par le cinéma.
Absolument.
Mais d'une certaine façon, c'est ce travail de cinéma, et notamment vos débuts dans le métier du montage, qui vous a reconduit à la musique. Ça, vous le racontez aussi dans l'article Balbutiement.
Absolument.
Vous dites en quelques mots avant qu'on écoute Initial Bébé.
Ah oui. non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le montage de films, je faisais de la musique déjà, mais m'a appris une espèce de façon de... à l'époque, on montait sur pellicule encore, et en enlevant 2 images par-ci, en en rajoutant 3 par-là, ça change complètement la configuration d'une scène et ça donne un rythme à une scène. Enfin, le rythme interne d'une scène, c'est vraiment fait en enlevant, en remettant, parfois en enlevant carrément une séquence entière, un acteur, etc. C'est dur, mais c'est comme ça. Et les chansons, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 demi-mesures là à couper. Ça change complètement. Parce que vous savez, le principe, ça dure 3 minutes. C'est très dur de faire une chanson, en fait. Entre 3 et 5 minutes, 6 minutes. Enfin bon. Mais en tout cas, ce qui est difficile, c'est de contenir l'attention de l'auditeur et qu'il ne s'ennuie pas.
Bien sûr.
Vous avez des chansons qui peuvent faire 1 minute extraordinaire et puis après, pouf. C'est le soufflet retombe et là c'est catastrophique. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment appris ça, le fait de couper.
Et un jour, on vous a proposé de faire le montage d'un film sur Gainsbourg au moment de la sortie de Mélodie Nelson.
Exactement.
Et là, tout d'un coup, ça réunissait vos deux passions.
Ah, complètement, parce que moi, j'étais un enfant des années 60, c'est-à-dire que j'écoutais Salut les copains, j'écoutais tous les groupes anglo-saxons comme les Beatles, les Stones, enfin des trucs qu'on entend encore aujourd'hui et qui sont carrément des icônes, les Kings, etc. Et moi, les chanteurs français, j'aimais bien, mais sans plus.
De loin. Sauf Gainsbourg.
Alors, et un jour, j'ai entendu Initials Bibi à la télé, à la radio, pardon. Et là, je me suis dit, pour la première fois, j'ai entendu un type qui chantait en français comme les Anglais. Voilà.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu l'essence de Guerlain dans les cheveux.
Mai 68, Louis Chédid a 20 ans.
Exactement.
Et sort donc Initials BB, ou BB si l'on préfère, ouais, de Gainsbourg, ouais. Chef-d'œuvre, avec aussi cette orchestration incroyable, voilà, Louis Chédid. Hein.
Il allait chercher les bonnes personnes aux bons endroits, vraiment.
Arthur Greenslade, hein, ouais, ça a voilà, été fait ouais.
Et puis,
à Londres.
C'est des musiciens anglais, je crois. Il y a peut-être, peut-être que le percussionniste ou le batteur est français, mais sinon, je crois qu'ils sont tous anglais.
Donc, comme vous nous l'avez dit, bon, il y avait d'un côté les Yéyés, il y avait surtout les groupes anglais, et puis il y avait ces quelques Français un peu voilà, singuliers comme Gainsbourg, bien
Dutron,
sûr, Dutron et d'autres.
Nino Ferrer, des gens comme ça. Quoi.
Et puis il y avait cette guitare que vous aviez fini par adopter. Comment s'est passée votre histoire avec,
alors,
avec la guitare?
L'histoire de la guitare, elle est très simple. C'est-à-dire que mon père, qui est un curieux de nature, avait acheté une guitare classique espagnole, enfin flamenco, pour s'essayer à ça. Et puis il a essayé, je crois, quelques jours et ça l'a dégoûté tout de suite. Donc il l'a mis à la cave. Un jour, comme ça, en allant chercher quelque chose à la cave, je suis tombé sur cette guitare qui était posée comme ça sur un meuble et debout. On se demande même comment elle n'était pas tombée. Et puis je l'ai prise, je ne sais pas, elle m'a un peu hypnotisé. Je devais avoir 13 ans. Et donc c'était la période justement de tous ces grands groupes qui déboulaient et de Salut les copains qu'on écoutait sur Europe 1 et qui était vraiment l'émission phare de la musique moderne et de la musique nouvelle. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais la prendre, je vais essayer. Et puis ça a démarré comme ça, et il lui manquait deux cordes au moins, si ce n'est trois, mais je ne savais pas jouer, donc ça ne me gênait pas. Mais simplement la sonorité de jouer sur une corde et de faire des notes, ça me plaisait tellement que voilà.
Vous racontez d'ailleurs très bien dans ce dictionnaire de votre vie, Louis Chédid, dans l'article notamment intitulé « Geek » où vous parlez de votre relation avec les machines, de ce côté que vous revendiquez d'autodidacte.
Compliment.
Vous avez appris tout seul avec les instruments, avec les machines, à faire de la musique.
Ouais.
Vous avez même d'ailleurs quelques lignes très élogieuses parmi vos modèles, je ne sais pas, en tout cas sur Vincent Scotto,
grand
compositeur de chansons d'avant-guerre, justement parce que lui-même connaissait très peu
lui,
la musique.
Alors Vincent Scotto, l'histoire fabuleuse, c'est-à-dire qu'à l'époque évidemment il n'y avait pas de micro-cassette ou de moyen d'enregistrer comme ça chez soi, et donc Vincent Scotto vivait en permanence avec un copiste, c'est-à-dire qu'il y avait un type qui savait écrire la musique, qui vivait avec lui, qui dormait chez lui, etc. Et Vincent Scotto, il faisait des mélodies à la guitare, comme
voilà,
ça.
Dans une seule tonalité,
dans
quasiment.
Une seule tonalité.
Comme Irving Berlin aux États-Unis.
Exactement, d'ailleurs. Exactement. Et il réveillait son copiste, il disait, tiens, vas-y, écris-moi ça, etc. Il a écrit 4000 chansons, dont 200 tubes, à mon avis, facile. Et 60 opérettes et des musiques de films. Je sais pas, c'est un fou.
Il y a toujours quand même le regard parfois un petit peu condescendant des entre guillemets professionnels sur les entre guillemets autodidactes ou amateurs. Non, ouais. Vous n'avez jamais ressenti ça, vous? Non.
Je m'en fous. Ouais. Je dis, voilà. Ce qui est important, c'est vous savez, McCartney, il ne sait pas écrire une note de musique non plus. Et ça, bon, on peut dire que quand même, il a marqué l'histoire de la musique dans le monde. Enfin, par exemple, un des plus grands compositeurs de musique de film aujourd'hui, il s'appelle Hans Zimmer. J'adore ce compositeur de musique de film. Il ne sait pas écrire une note.
Voilà. Et en tout cas, ça n'empêche pas, à coup sûr, de faire de la musique et de la belle musique. Et alors, donc, votre premier disque, finalement, est arrivé. Pas si difficilement que ça. Les succès sont venus plus tard, mais le premier disque c'est arrivé assez facilement. On a l'impression.
Oui,
vous le racontez dans l'article Balbutiement à la lettre B. Hein.
Absolument, absolument. J'ai eu une chance. Je faisais du montage à cette époque-là et je travaillais à Gaumont et à la Gaumont. Et un jeune réalisateur à la Gaumont, il y avait plusieurs monteurs et c'était plutôt des gens beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'avais 21 ans, 22 ans et j'adorais monter sur la musique. Et à l'époque, on pouvait utiliser n'importe quelle musique, on le balançait sur les films.
Il avait remarqué que vous aviez justement une méthode pas conventionnelle, peut-être. Alors, parce que vous étiez un amateur, justement.
Oui, exactement. Et je démarrais, moi, donc je faisais ce qui me semblait bien. Et donc ce réalisateur m'avait repéré et m'a fait travailler sur un sujet qu'il faisait sur Gainsbourg et Melody Nelson. Donc il ne pouvait pas me rendre plus heureux que ça. Et puis, de fil en aiguille, un jour, il est venu à la maison, il a vu la guitare, il m'a dit, mais c'est quoi cette guitare? Tu joues de la musique? Et je lui ai dit, oui, je fais un peu de musique. Je faisais des chansons comme ça, mais sans du tout penser à être chanteur. Mais du tout. Parce que les chanteurs en France, pour moi, c'était un peu... je me disais que j'aurais pas ma place, quoi. C'était plutôt Stoney Chardin, c'était des gens comme ça. Et j'ai rien contre, mais c'était pas du tout mon
ce
truc.
Ce que vous vouliez faire.
Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui préfèrent chanter en anglais, ou je sais pas. Et donc, je lui ai dit, bon, bah écoute, si tu veux... Il avait un copain qui travaillait chez Barclay, et un directeur artistique, il m'a dit, bah, si tu veux, on peut aller le voir, et puis on lui fait écouter ce que tu fais. On lui a fait écouter, il m'a fait faire un premier album, c'était... Ça a démarré comme ça, oui.
Premier album s'appelait Balbutiement.
Exactement.
Il est assez déjanté dans la construction.
Oui, oui, il est déjanté,
on va écouter tiens, le premier titre qui s'appelle Texte à temps.
Oui, Texte à temps.
Texte à temps, c'était en 1973 et l'album s'appelait donc Balbutiement. Alors c'est amusant ces ruptures de ton là, ces cassures, on passe d'une couleur à une autre.
Absolument, absolument.
Qu'est-ce que c'était quoi, vous aviez un modèle ou qu'est-ce que vous vouliez faire, vous cherchiez?
Non, vous savez, quand on fait son premier disque, c'est un champ
il y a une fantaisie quoi,
inexploité. Même toutes les chansons qui vous viennent, elles sont bien parce que vous n'avez pas expérience. Ce qui est dur, c'est le deuxième et le troisième. Hein,
ah
c'est
oui.
ça qui est dur. Mais le premier, c'est carrément, bof, vous chutez à l'eau, quoi. Je veux dire, au contraire, vous amusez à jouer de la guitare. Enfin. Alors, j'ai eu la chance aussi, ce directeur artistique François Bernheim de Barclay m'a mis entre les mains d'un groupe
pop
qui s'appelait Ophucus.
Ouais. Alors là, je connaissais pas du tout.
Ouais,
Ophucus,
c'est vraiment, c'est à écouter. Hein. Ils sont Ophucus. Et Ophucus, c'est un signe astral, je crois, Ophucus. Et ils m'ont complètement soutenu, épaulé. Moi, j'étais complètement novice. Hein. Eux, ils avaient déjà fait des disques et tout, dans des studios. C'est comme des très bons profs, quoi. C'est,
vous savez, et c'est Touché Did est en germe, là.
Mais complètement.
Dans les différentes chansons.
Mais je suis toujours en germe. ça peut vous rassurer. Alors, j'espère être en germe jusqu'au bout. Mais voilà, et donc, ils m'ont vraiment épaulé, ils m'ont soutenu, ils m'ont appris énormément de choses. Et puis, je me suis retrouvé en studio avec tous ces boutons, là, sur les consoles. Ces réverbes, ces effets, ces choses, ces aigus, ces graves.
Moi, ça me fait plaisir que vous parliez de ça, parce que moi, je trouve que le studio est un instrument merveilleux, mais bien souvent, les chanteurs vous expliquent toujours qu'ils préfèrent le live, c'est très bien, la scène. Mais vous, vous revendiquez votre amour du studio et de la machine.
J'adore les deux, en fait. Les deux. Mais oui. Trouver le son, vous savez, c'était l'époque où il n'y avait pas d'informatique musicale du tout, donc c'était vraiment que des instruments acoustiques, mais on s'amusait.
Et des trucs.
Oui, voilà. Ouais. On s'amusait à mettre des micros dans des salles de bain parce que ça a résonné d'une certaine manière. On faisait plein de trucs comme ça.
C'est très drôle aussi, d'ailleurs, dans cet article Balbutiement, votre rencontre ratée avec Eddie Barclay.
Ouais, ça, on peut le dire, oui.
Alors ?
Le directeur de Barclay à l'époque s'appelait Léo Missire. C'est celui d'ailleurs qui a sorti Balavoine et tout ça. Et Léo Missire me dit, ce serait bien que vous alliez présenter votre disque à Eddie Barclay. Je dis, bon, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'avais 25 ans, moi. Et donc, je vais avec mon vinyle sous le bras et je vais Avenue Hoche chez Barclay.
Chez lui, au domicile.
Chez lui. Et puis j'arrive, il y avait sa cour qui était là en train de boire des coups et c'était 7h du soir et tout. Et
une grande cheminée,
des gens très chics. On me met au fond du salon. sur une chaise comme ça, Louis je ne sais combien, et j'attends. Et j'attends avec mon disque, et il y avait sa cour qui me regardait de temps en temps, machin, un peu... Ben, je me sentais hyper pitoyable, et puis j'ai attendu une heure, deux heures, et puis tout d'un coup il est arrivé en peignoir, là il était habillé, et il est venu vers moi, il m'a regardé, il savait plus trop qui j'étais, ben, il savait pas qui j'étais de toute façon, et je lui ai dit, vous savez, je viens, on avait rendez-vous pour qu'on parle de mon disque, et tout ça. Ah, il me dit, ah ouais, non, mais là j'ai pas le temps, là, vous avez vu, vous voyez, je pars, ben, revenez demain à 11h. C'est comme si, c'était tout à fait normal.
Ah, vous sortiez votre premier disque chez lui, vous étiez tellement fier.
Non, mais c'est ça, oui. Alors donc, j'ai ravalé mon amour propre, et le lendemain, 11h, j'étais là. Il m'a fait encore attendre une bonne heure ou deux, et au bout de 2 heures, il est arrivé, alors là, en peignoir, c'était le matin, avec sa coupe de champagne dans la main, et il m'a dit, bon, écoutez, j'ai écouté, mais... Franchement, le titre, là, Balbutiement, c'est une très mauvaise idée et vous en vendrez pas beaucoup. Et le pire, c'est qu'il avait raison, ce salaud.
Mais vous avez regretté de pas avoir su, à ce moment-là, dire « va te faire voir » tout simplement « non ».
Oui,
non,
voilà,
qui est aussi une autre entrée de votre dictionnaire.
Hein. Oui, absolument.
Savoir dire non.
Voilà, c'est ce
difficile capital, quand on a envie de réussir en même temps.
Et voilà. Non, mais en fait, c'est mieux quand on a envie de réussir, vaut mieux savoir dire non que.
C'est vrai.
Oui. Après, moi, ça m'a vacciné pour le restant de ma vie, ça. Je veux dire, faut pas prêter le flanc au mépris ou
à l'humiliation.
Oui, voilà. Alors évidemment, bon, ça m'a pris un certain temps, mais maintenant, alors là, je le pratique très régulièrement.
Alors le tournant suivant, on peut dire, après le premier album, c'est, on peut dire, 77-78, avec les premières chansons à succès,
ouais.
Et notamment La Belle.
Ouais.
Je préfère mourir en buvant la tasse que de finir à Alcatraz. Me faire bouffer par les requins que d'être mordu par leurs chiens. Pour qui ne connaît que la brasse, New York, c'est pas la porte en face, ni l'océan en promenoir. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle, je me suis fait la belle, tchou 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 tchou. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle, tchou, 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 tchou. Je me souviens de mon enfance, loin d'Alcatraz et des potences. Et je chante en faisant la planche au milieu de la mer immense. Je me souviens que quand j'étais gosse, je mettais les pièces dans les jukebox et j'écoutais du rock'n'roll plutôt que d'aller à l'école. Je me faisais la belle, je me faisais la belle, je me faisais la belle, tchou 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 tchou. Je me faisais la belle, je me faisais la belle, je me faisais la belle, tchou tchou tchou.
Louis Chédid, en voilà encore une qui a traversé aussi les décennies, La Belle, 1977.
J'aime beaucoup la chanter, celle-là, en scène et tout ça. C'est vraiment, les gens sont très...
Vous vous rappelez comment elle est venue, comment vient une chanson de Louis Chédid en général d'ailleurs,
alors,
ça commence par les paroles, vous ajoutez de la musique, vous trouvez d'abord un refrain.
Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. C'est vraiment ou l'un ou l'autre. Souvent, c'est une mélodie que j'enregistre aujourd'hui, maintenant, évidemment, sur mon iPhone, etc., comme ça. Mais parfois, j'ai pas d'instrument. Hein,
une idée juste mélodique comme ça.
Voilà, une idée mélodique. avec trois mots et quand on crée quelque chose, finalement, votre pire ennemi, c'est vous, quoi. Parce que, en fait, on peut créer une chanson par demi-heure, si on veut. Non, mais c'est pas obligatoirement, ce sera pas obligatoirement bien. Ouais. Mais en fait, le problème, on met du temps parce que on se critique, on dit ah non, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, je peux pas machin. Mais parfois, vous vous rendez compte, moi, je sais, il y a des chansons, par exemple, que je voulais pas sortir, dont Ainsi soit-il, par exemple. Ainsi soit-il, ça venait après une autre chanson qui était Hold Up, qui était une attaque de banque, etc. Et que j'avais fait, qui était vraiment très cinéma, avec un.
Qui a été reprise en clip d'ailleurs, avec voilà, Souchon et d'autres.
Exactement. Et j'avais fait cette chanson avant, qui était très cinéma, et j'ai fait Ainsi soit-il. Quand j'ai fait Ainsi soit-il, je me suis dit non, je peux pas faire. Mais le truc, c'est encore du cinéma, je viens d'en faire une, ça va paraître un peu redondant, mais pas du tout, ça avait rien à voir en fait. Donc on est très mauvais juge. Et là, le jour où j'ai compris ça, maintenant je fais, et puis après, les gens jugent.
Cela dit, entre le petit embryon d'idée et la chanson, il y a beaucoup de travail, et ça,
évidemment.
Vous insistez beaucoup là-dessus aussi.
Ça, évidemment.
Il faut être perfectionniste aussi pour que ça devienne vraiment une chanson.
Il disait un truc, d'ailleurs, qui a beaucoup fait tilt dans ma tête, c'est que lui, quand il écrit les chansons, il prend son bloc-notes et il noircit des pages, mais énormément de pages, quoi. Parce que, en fait, une chanson, c'est 30 lignes, en fait, c'est rien. Et lui, il noircissait des idées, des pages, des choses. Et puis après, tout le travail, c'est de rassembler tout ça et de faire 30 lignes.
Voilà, exactement.
Et c'est comme ça qu'il faut faire, moi, je trouve.
Alors, précision encore, Label, en 77, tout comme Tabou pas être beau l'année suivante, c'est sorti en 45 tours. Hein. C'était pas des albums concept,
c'était
pour
pas
le
des
coup.
Albums.
Hein.
Non, pas du
c'était
tout.
C'était des
du
titres tout. Comme ça, la grande époque encore du 45 tours.
Oui, exactement.
Et avec aussi le concours, là, dans celle qu'on vient d'entendre, d'un excellent arrangeur de l'époque.
Michel Bernolk.
Ouais.
Qui nous a quittés malheureusement, mais qui était un très très grand arrangeur. Et, par exemple, toutes les premières chansons de Véronique Sanson, Besoin de personne, tout ça, tous les arrangements de cordes et de cuivres, toutes les chansons de Berger aussi, tout ça. Il a beaucoup travaillé avec tous ces gens-là. Et c'était vraiment un des arrangeurs vedettes de l'époque. Et il avait un sens, un peu comme Jean-Claude Vanier, des gens qui avaient un espèce de sens nouveau de la façon d'écrire les cordes et rythmique, un peu arabisant, enfin voilà.
Louis Chédid, il y avait un mot qui revient parfois à votre propos à l'époque, je sais pas ce que vous en pensez, c'est chanteur exotique.
Oui.
C'est quoi ça?
C'est à cause de Tabou pas être beau, là. Vous savez, le truc, c'est que c'est toujours comme ça. Quand j'ai fait Ainsi soit-il, j'étais un chanteur synthétique.
Ah bon, d'accord.
Tabou pas être beau, j'étais un chanteur tropical, exotique, comme vous dites. Après, qu'est-ce que j'ai? Oui, après, j'étais Alma Sahan, j'étais un chanteur engagé.
Oui.
Et maintenant, je sais pas ce que je suis. Je suis un chanteur,
Et Nina Simone, elle est quoi?
Nina Simone, oh là là, c'est une des plus grandes voix qui existe au monde. Vous savez qu'elle a habité Bouc-Bel-Air?
L'endroit que vous chérissez depuis votre enfance, dans
c'est
le sud de la France.
La boucle est bouclée. Ah, Nina Simone, elle a habité Bouc-Bel-Air.
he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
C'est la classe.
C'est la grande classe. Ouais. Hein. Nina Simone en 1982, Louis Chédid, ça fait partie de vos, vos références musicales, on peut
absolument,
dire.
Absolument, absolument. Et puis même, humainement, c'est quand même quelqu'un qui a tellement vécu des choses absolument
terrible,
épouvantables. Ouais. Quoi. Et en fait, elle rêvait d'être une concertiste, en fait. Hein. C'était le drame de sa vie, ça a été de ne pas faire de la musique classique. Et
parce
de
qu'elle
pas
était noire.
Ouais, ouais.
Aux
parce
États-Unis
que,
à l'époque.
Ouais, enfin, il y a une histoire comme ça. Qu'elle n'a pas pu rentrer au conservatoire, qu'elle n'a pas eu le diplôme et ça l'a fait souffrir toute sa vie.
Voilà d'ailleurs une question sociale, je disais parce qu'elle était noire, mais il y en a beaucoup d'autres dans vos chansons, Anne, ma sœur Anne, vous avez essayé tout à l'heure et bien d'autres encore. Alors, chanteur engagé, donc, cette case-là.
Oui, enfin, je n'aime pas le mot parce que moi je
chanteur
pense
socialement concerné, voilà, chanteur politiquement.
Chanteur de temps en temps, enfin, sur certaines chansons, chanteur citoyen, voilà, je dirais. Parce que, enfin, la différence avec. Beaucoup de gens, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Donc, voilà, dans des moments où vraiment les choses sont too much, enfin, je veux dire, comme la montée du Front National quand ça a démarré dans les années 80, moi, ça, je comprenais pas ce qui se passait. Et donc, j'ai fait cette chanson Alma Sera par rapport à ça. Mais,
en restant néanmoins dansant, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, d'ailleurs, qui a fait la pérennité de la chanson. Hein, parce qu'en fait, si j'avais fait... J'aime pas les chansons militantes au premier degré, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la chanson, vous savez, un peu 68 Arde, où la musique paraphrase totalement le texte.
Ouais.
Avec le point levé et tout ça, je trouve ça vraiment pas possible.
Pas possible.
Mais c'est d'ailleurs ce que les Américains font bien, c'est-à-dire que quand ils font des films sociaux, ils oublient jamais que c'est du spectacle.
Et
quoi.
Même et, du divertissement, d'une
et
certaine
voilà,
façon.
Et voilà, oui. et du divertissement. C'est comme ça que les idées passent, en fait.
Bien sûr. Une autre question, l'amitié avec Souchon.
Oui.
Avec qui vous avez fait des chansons, et
oui.
Puis on sait que vos fils sont amis aussi.
Oui,
ça,
oui,
ça a
oui.
commencé comment?
Moi, je me souviens très, très bien. C'était des émissions pour les enfants l'après-midi qui s'appelait Avec Dorothée, je crois.
Ouais.
On faisait des émissions comme ça en 75, 16. Lui, il avait fait Allô, ma bon bobo, je me souviens. Et moi, j'avais fait La Belle, peut-être. Ouais, peut-être en 77. Et on s'était retrouvés dans cette émission. Et on avait discuté de nos espoirs futurs en se disant « Ah, ce serait bien quand même ça dure 3, 4 ans, 5 ans. » Parce que c'est sympa quand même quand ça rigole.
Quand ça marche.
Quoi, quand ça rigole et tout. Et on avait sympathisé à ce moment-là. Et puis on était un peu ce qu'on appelait la nouvelle chanson française. On
c'est
nous
ça.
Appelait. Alors il y avait là-dedans, il y avait Jonas, il y avait Scheller, il y avait... bon, il y en avait plein d'autres. Hein. Et donc on a sympathisé assez vite. Et on se voyait pas toutes les 5 minutes, mais enfin on s'aimait bien. Et on s'aime toujours rien.
Jeunesse, à fond la caisse, sur la voie express, faites-vous des caresses, donnez-vous des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux, dans les rues, sur les clous. C'est ça aussi, banané, par les années, nettoyé, vachement avachi. Calvitie, attention.
Là, on est en 1988, Roulez Jeunesse, donc un des titres que vous avez co-signé, Louis Chédid, avec votre copain Alain Souchon.
Absolument. Hein. Et alors, il y a une anecdote assez rigolote, c'est qu'en fait, on était partis en Corse tous les deux pour se ressourcer, je sais pas quoi. Et on était partis tous les deux dans une maison en Corse paumée dans le Cap Corse. Et puis, on était arrivés, il faisait un temps pourri. Mais vraiment pourri, il pleuvait, et au bout de deux jours, on s'ennuyait tellement qu'on a fait cette chanson.
Voilà.
On s'était dit, on fait rien pendant une semaine, et en fait, on a fait ça.
Alors là, je crois que votre fils Mathieu est dans les chœurs, d'ailleurs, de cette chanson.
Non, il était dans les chœurs de Tabou pas être beau.
Ah bon?
Ouais, ouais.
Enfin, il apparaît à ce moment-là.
Ah, il a apparu avant, il a apparu 10 ans avant, puisque Mathieu, il a chanté dans Tabou pas être beau, qui date de 79, je crois.
Voilà.
Et Émilie aussi, ma fille.
Votre fille est née.
Parce que j'avais besoin d'enfants pour faire les chœurs et, ben voilà. Et voilà, et j'en avais deux sous la main.
Mais c'est amusant quand même que cette amitié des pères se soit prolongée dans une amitié des enfants.
Mais ils sont connus petits. Charles, Pierre, Mathieu.
Charles et Pierre Souchon, Mathieu voilà. Chédid.
Et Julien Voulzy et tout ça, ils sont connus.
Thomas Dutronc peut-être aussi.
Ils jouaient ensemble, etc. C'est une drôle d'histoire pour eux. C'est encore plus extraordinaire pour eux, parce que finalement, ils se sont connus vraiment, alors là, quand ils avaient 10 ans, 11 ans.
Oui, c'est ça. Ouais, et ça continue aux deux générations.
Absolument. Et d'ailleurs, Mathieu, il vient de faire un disque avec Julien Voulzy, là. Il a réalisé un disque avec Julien qui doit sortir bientôt.
Et puis, encore un autre aspect de votre activité, alors sans doute moins connu, mais qui relie d'une certaine façon votre premier métier et le second, c'est la musique de cinéma.
Ah oui.
Voilà, ça c'est un hymne tropical dans le film Promotion Canapé de Kaminka.
Oui, exactement.
Un des films dont vous avez fait la musique, en commençant je crois par Pino Simple Flic,
Pino Simple Flic ça,
Louis Chédid. Comment c'est arrivé tout ça?
Alors parce que en fait j'avais fait, justement on parlait de ce morceau qui s'appelle Hold Up, et, où il y avait Souchon, il y avait Brasseur et il y avait Junio. Et donc je les avais appelés, je leur avais dit voilà j'aimerais bien que, j'avais demandé à Junio de faire le caissier et Souchon et Brasseur.
Pour faire un clip. Donc de cette chanson que vous aviez enregistrée des années avant.
Hein, mais exactement. Voilà. Ouais. Et donc ils m'avaient tous dit oui. Et donc Junio, après le clip, il était en train de faire Pino Simple Flic. Et il m'avait demandé de faire la musique. J'ai dit évidemment que oui. Et on s'est bien amusé à faire ça. Vraiment, c'est très amusant. J'en ai fait très peu en fait. J'ai eu la chance de faire que des films qui ont marché.
Combien marché.
Donc c'est incroyable. Mais c'est vrai que j'en ai fait très peu.
Mais vous aviez le métier du montage et le métier de la musique, donc c'était
absolument,
parfait.
Oui. Alors après, si vous voulez, en fait, la difficulté, c'est de tomber sur des réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent. Alors eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Ouais. Mais si vous tombez sur un réalisateur
qui ne sait
pas du tout...
Oui, bien sûr, la musique, c'est le truc qu'on ajoute à la fin, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire.
Oui, voilà. En général, c'est toujours un peu le parent... En France, c'est un peu le parent pauvre du cinéma. C'est-à-dire que ça arrive vraiment à la fin et... Et ils considèrent que c'est de l'illustration, quoi. Beaucoup considèrent ça. Pas tous, hein. Le Comte, pas du tout. Enfin, des gens comme ça. Mais il y en a qui sont paumés, enfin, qui savent pas trop. Alors, ils vous balancent des disques en disant, tiens, voilà, j'ai pensé à ça, si. Et donc, moi, je leur dis à utiliser les disques. Voilà. Mais sinon, évidemment, tomber sur un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut, etc., et qui vous pousse dans vos retranchements, ça, c'est un bonheur. Mais bah, après, il faut avoir le temps de le faire.
Et puis, alors, vous avez eu une autre passion, Louis Chédid. Alors, on a évoqué donc, la musique, le cinéma, et c'est aussi la comédie musicale, hein, depuis très longtemps, notamment les comédies musicales américaines.
Oui, exactement. Je suis fasciné par les grandes comédies musicales. Bon, alors, évidemment, West Side Story, mais Chicago, Singing in the Rain, enfin. Et puis aussi Fred Astaire, les Jane Kelly, des gens comme ça, quoi.
Ouais.
Je connais moins les opérettes, contrairement à vous. Je trouve que c'est un art à part entière. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est comme le théâtre ou le théâtre chanté. Enfin, c'est vraiment...
Mais alors, ces œuvres qu'on a vues avec beaucoup de plaisir en France, qui ont très bien marché, et vous en savez quelque chose, que sont, par exemple, Émilie Jolie ou Le Soldat Rose, ce sont des comédies musicales?
Ce sont au départ des disques.
Parce que ça commence par le disque, là, dans ce cas-là. Oui. C'est d'abord des suites de chansons. Hein.
Absolument, c'est des suites de chansons.
Donc c'est un autre concept que la
comédie. Et moi, en fait, je veux dire, quand on a fait ça, quand on a fait Le Soldat Rose... Ah,
vous aviez commencé par Émilie, hein, d'ailleurs, oui, comme interprète.
Moi, j'avais,
hein.
J'avais chanté, moi.
Voilà, Émilie. C'était il y a très longtemps.
Oui, exactement. C'était au moment de Tao Pas de Beau, d'ailleurs, je crois. Je démarrais, hein, presque, et j'avais rencontré Brassens, j'avais rencontré Salvador, Sylvie Vartan, mais que des gens qui étaient des icônes pour moi et tout ça. Donc un jour, j'ai serré la main de Georges Brassens, je peux vous dire que je m'en souviens encore. Et voilà, et on s'est retrouvé dans cette aventure incroyable d'Émilie Jolie, qui était vraiment une très très belle aventure.
Et puis vous êtes dit.
Et puis pendant des années, voilà. Je m'étonnais qu'il n'y ait pas encore une nouvelle comédie musicale pour enfants et parents, parce que c'est le disque d'Émilie Jolie, c'est un disque qui a plu aux enfants, mais qui
et
a plu beaucoup,
aussi,
beaucoup,
ouais.
beaucoup aux parents. Et voilà. Et puis un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un auteur que mon éditrice me fait rencontrer, et puis
Pierre-Dominique Burgot
et Pierre Do. Je lui ai dit, ça t'amuserait pas qu'on fasse une comédie musicale pour enfants comme ça? Je fonctionne vraiment comme ça. C'est tout d'un coup, je sors des phrases comme ça. Mais j'y pensais, évidemment, ça mûrissait depuis longtemps. Et il m'a dit, ah, pourquoi pas. Et il m'a sorti ce jour-là un petit bouquin qui venait de publier, qui était tout frais et qui était un livre pour enfants. Donc je me suis dit, ça, c'est un signe. Et on a commencé à travailler, mais sans ça, du tout savoir ce qu'on allait faire. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait que dalle. Hein. Puis de fil en aiguille, on a fait en 9 mois... toutes les chansons, et puis après on les a envoyées aux chanteurs, et ils ont tous quasiment dit oui. Enfin, il y a eu une ou deux personnes qui ont dit non, mais tant mieux pour nous, parce que ça nous a conduit à d'autres personnes qui étaient, je pense, encore mieux pour les chansons.
Et pourquoi faut-il donc commencer par le disque, et puis 2 ans après,
par exemple,
au Casino de Paris, monter sur scène et adapter le disque en spectacle?
Nous, vraiment, on faisait un disque. On faisait
ah oui,
un disque.
D'accord.
On faisait un disque, on pensait pas du tout mais pas du tout, parce que, en plus de ça, comme l'idée, c'était quand même de prendre des chanteurs, enfin, connus. Donc, je me disais, on n'arrivera jamais à faire de la scène avec ça, etc. Et c'est le succès de ce disque fait très artisanalement qui a fait que tout d'un coup, on nous a proposé de faire une tournée, on nous a proposé de monter une nouvelle troupe, parce qu'évidemment, on peut difficilement avoir pendant 100 concerts, en même temps, Vanessa Paradis, Souchon, Cabrel, c'est impossible. Donc voilà, on a monté une nouvelle troupe et on a fait... Voilà, c'est le succès qui a fait que c'est devenu très, très important.
Vous avez d'ailleurs consacré dans votre livre là, un article justement au Soldat Rose, à la lettre S, comme il se doit. Et vous revenez sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, on est mauvais juge de ce qu'on fait soi-même. Ouais. Il y a une chanson que j'adore, on va l'écouter, que Cabrel interprète là. Et vous n'en étiez pas content
hein, non, parce que c'était la dernière chanson. C'était la dernière chanson. J'avais l'impression d'avoir déjà fait cette musique, ce qui est possible d'ailleurs, mais avec les mots, ça sonne comme une chanson vraiment. Et voilà, et puis vous savez, au bout d'un certain nombre de chansons, on se pose des questions, ça arrive quand même. Hein, et voilà, j'étais pas très sûr. Et puis c'est vrai que Francis, il s'est emparé, comme les autres chanteurs. C'est des chanteurs, c'est des vrais interprètes, tous ces chanteurs-là. Et c'est pas pour rien qu'on les a choisi, ces chanteurs-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, les chansons, elles deviennent presque la leur, quoi.
Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de zoo, c'est peinard. C'est pas souvent que les pingouins se barrent. Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout de but, c'est trop fastoche. Suffit d'enlever les mains de ses poches. Mais gardien de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris. Je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Méfiance, je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout l'univers, bien que de la méfiance.
Formidable chanson, ouais. Francis Cabrel, dans Le Soldat Rose numéro 1, votre musique.
Grand,
donc,
grand
chanteur. Mais ouais. Alors pourquoi vous n'avez pas participé au Soldat Rose 2 et au Soldat Rose 3?
Parce que, en fait, on avait discuté avec les fondateurs du Soldat Rose, Pierre Do, Burgo, Marie Nova, etc. J'étais tellement heureux de ce qui s'était passé sur le Soldat Rose 1.
Ouais.
Que j'avais pas envie,
je vous répéter,
pas...
quoi.
Non. Ouais. Et puis j'aime pas faire deux fois la même chose, donc voilà, je leur ai, ils m'ont demandé si ça m'embêtait, et j'allais pas leur dire non, je veux pas que vous le fassiez. Enfin, je veux dire, je les ai laissés faire, et d'ailleurs, ils ont bien fait, parce que ils ont fait 1-2 avec Cabrel, ce qui est pas quand même nul, et le troisième avec Souchon, donc ouais. c'est vraiment génial. Mais voilà, moi je me sentais pas de continuer à. Voilà, ça avait été tellement fort et tellement réussi que je voulais pas continuer.
Vous n'avez pas envie de vous répéter. On a l'impression aussi que, au fil du temps, ce qui est bien naturel, vous avez un peu changé de rythme entre les années où vous aviez besoin et l'envie de vous faire vraiment reconnaître et connaître comme chanteur, et aujourd'hui où les albums sont plus espacés, vous prenez votre temps. C'est quoi votre fonctionnement d'auteur, compositeur, interprète aujourd'hui?
Moi, en fait, mon fonctionnement aujourd'hui, c'est vrai que le Soldat Rose a été un point de, pas de bascule, mais disons de, je me suis rendu compte, en fait, que ce que je pensais depuis longtemps, d'ailleurs, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, en fait, différentes. Et j'ai envie aujourd'hui, c'est ce que je fais d'ailleurs, de faire des choses différentes. C'est-à-dire, donc, il y a eu le Soldat Rose, il y a eu un bouquin de nouvelles il y a
chez
2 ans.
Chez
Calman Lévy. Il y a ce livre aujourd'hui. Il y a une comédie musicale que je suis en train de faire. Puis un album pour 2020. Et c'est vrai.
Mais en prenant le temps pour chaque chose.
Oui, en prenant. Enfin, je travaille tout le temps. Hein, mais voilà, mais je ne fais pas qu'une seule chose, c'est-à-dire un album. Tous les 2-3 ans, comme je faisais à une époque.
Une chose qui est amusante aussi pour vous, qui êtes un enfant de la génération 68 et plus de liberté, de fantaisie, vous avez quand même consacré un article à la famille.
Oui, absolument. Là, de toute façon, je me serais fait lyncher si je n'avais pas. On est un peu.
Vos 4 enfants en particulier.
Là, les Chédides, ils sont identifiés comme une espèce de, on nous appelle la famille en or maintenant, ouais. Enfin, c'est assez rigolo d'ailleurs.
Fait le point sur les 4. Hein.
Émilie, c'est la plus grande, elle fait du cinéma.
Ouais.
Et après, il y a Mathieu qui fait de la musique, comme chacun sait. Ouais. Après, il y a Anna qui fait aussi de la musique, qui chante. Et Joseph aussi qui fait de la musique, qui chante et qui réalise. Les chiens ne font pas les chats, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai absolument rien fait pour qu'ils fassent ça.
Non. Mais comme vous dites, au fond, c'était un peu une tradition dans tous les métiers d'art que les familles d'artistes, ça continue de génération en génération.
Hein. Les médecins en général font des médecins, les avocats font des avocats, etc. Et c'est vrai que nous, c'est plus spectaculaire parce que c'est public, quoi. Et puis en plus de ça, on est montés sur scène tous les 4.
Voilà.
Et donc c'est sûr que ça, c'était assez inédit. Je crois qu'il y a peu de familles qui ont fait ça.
C'était, précisez-nous.
C'était en 2015. 2015-2016, on a fait un concert familial, ce qu'on, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, tous les quatre, donc Anna, Joseph, Mathieu et moi.
Évidemment,
et on était
oui.
tous les quatre sur scène et on jouait tous les quatre, il n'y avait pas d'autres musiciens. Et c'était le deal de départ et on a fait une cinquantaine de concerts quand on aurait pu en faire beaucoup, beaucoup plus. Mais, et c'était un moment absolument magique, quoi, c'est sûr.
On ne dit jamais assez
aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
C'est pour votre famille que vous avez écrit cette
non,
chanson?
Non, non, pas
non,
du
pas
tout.
Du
enfin,
tout.
Oui, évidemment, c'est par rapport à des gens qui me touchent, etc. Mais je l'ai fait bien avant ce ouais. concert familial. Je l'ai fait 5 ans avant le concert familial, cette chanson.
Mais c'était en pensant à eux?
C'était en pensant, oui, à tous les gens qu'on aime ouais. et à qui on n'ose pas, parce qu'on se dit... ou même des gens qu'on rencontre, qu'on croise et avec qui il y a une sympathie immédiate, etc. Mais on n'ose pas aller trop loin parce qu'on se dit, oh là là, non, il va être gêné et tout. C'est de la pudeur. Enfin bon, on mêle, et en fait, les gens adorent qu'on leur dise qu'on les aime. Hein. Moi, le premier.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dit, on parle au téléphone.
Souvent quand nos regards se croisent, y'a comme une chaleur. Mais de là en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
Avant de nous dire au revoir, de marcher à l'ombre, que sur notre histoire pleurer de tombe.
Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait dans sombre sans vous autour.
Vous tous autour. On ne dit jamais assez.
Louis Mathieu, Joseph et Anna Chédid en 2015 dans une de vos chansons,
ouais,
Louis Chédid. Presque toute la famille, puisque l'aîné qui fait du cinéma ne chante pas.
Mais elle a filmé aussi tout le making-of de cette tournée.
Ça, c'était en 2015. En 2016, Louis Chédid, vous avez coordonné un hommage à Georges Brassens.
Exactement.
Retour aux sources, d'une certaine façon.
C'est les héritiers de Georges Brassens qui sont venus me voir. Et moi, je ne voulais pas faire un album hommage de chanteurs, parce qu'il y en a eu tellement, tellement, tellement. Et voilà. Et je pense que personne ne chante aussi bien les chansons de Brassens que lui. Oui. Mais par contre, j'ai eu l'idée de demander à des acteurs. Et donc, il y a dans ce disque Michel Bouquet, il y a Dusselier, il y a Catherine Fraud, il y a plein d'acteurs formidables qui sont venus vraiment très gentiment. Et ça fait un disque qui est vraiment, vraiment bien. Je suis très fier de ce disque.
Bon, et puis aujourd'hui, vous sortez donc ce dictionnaire de ma vie, Louis Chédid. Votre mère disait tout à l'heure qu'il y avait plein de thèmes graves dans vos chansons. J'ai quand même remarqué que l'article le plus long, c'est celui sur la mort.
Oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est un thème, c'est quand même un grand thème.
Oui, il faut dire que c'est une vraie question.
Pour chacun de nous, c'est vraiment tout le mystère de la vie, il se repose là-dessus. Donc, ce serait bien bête de pas en profiter, au moins.
Non, on peut se le masquer, s'enivrer.
Oui, il y a beaucoup. Mais en Europe, c'est vrai que en France, les gens, ils n'aiment pas trop parler de ça quand on leur dit... Quand par exemple je dis ce qui est une vérité, je veux dire moi, si tout va bien, quand on a un certain âge comme moi, 70, il me reste quoi, 10, 15 ans, mais quand je le dis normalement, mais c'est une réalité, c'est un fait. Et les gens, ils me regardent, mais non, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, comme si c'est, j'étais en train de... Mais si, c'est comme ça.
Bon, en tout cas, nous, on a encore le temps de découvrir vos prochaines œuvres, Louis Chédid. Et un dernier mot avant de se quitter, parce que ça m'intéresse particulièrement dans cette émission, la comédie musicale.
Oui, voilà.
Ce sera sur le thème de quelqu'un que vous adorez.
Oui, que j'adore, c'est Cyrano de Bergerac. Je fais un musical sur ça.
Autre article de votre dictionnaire, d'ailleurs, Cyrano.
Exactement, exactement. Cyrano.
Passion de toujours.
Oui, passion de toujours. Depuis que j'ai vu Sorano, Daniel Sorano jouer Cyrano dans les années 60, là, justement, à la télé, j'adore ce personnage. Et donc, ce sera à l'automne 2019.
Bon, bah alors on vous attend ici pour nous
plaisir,
en parler.
Avec grand plaisir, alors je viendrai avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Louis Chédid.
C'est moi.
Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak, la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, oh, oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau. Y'en a qui dégainent leur pétard pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même j'aime, j'aime, des mecs qu'on dit soleil j'aime, j'aime, dans la tête j'aime, sur ma planète j'aime, j'aime, des mecs qui pensent pas que c'est chacun pour soi, j'aime, j'aime, j'aime. Qui se tendent les bras, j'aime, j'aime, j'aime. Sur ma terre à moi.
Chédid dans ce tube de 1978 qu'on ne présente plus évidemment, mais qu'on retrouve comme toutes ses autres chansons dans le livre qui vient de paraître, Le Dictionnaire de ma vie, donc de Louis Chédid. C'est aux éditions Kero.
l'art du piano bastringue. C'était le compositeur Floyd Kramer dans ce morceau intitulé Fancy Pants, que vous retrouvez d'ailleurs dans le coffret piano bastringue concocté par notre regretté Pierre-Marcel Onder chez Marianne Mélodie.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puisqu'on a commencé l'émission avec un coup de téléphone, passons-en encore quelques-uns. Celui-ci, par exemple, que j'ai retrouvé pour vous dans le film Chacun sa chance en 1930 avec la voix inimitable de Jean Sablon.
Ici Baronne de Monteuil.
Oh, c'est vous, Marianne.
Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
Si vous voulez, sortons tous deux.
Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
Je veux m'amuser, danser, me griser.
À l'Impéria, je vous attends.
C'est dit.
C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas de bien beaux songes, et l'on se dit des doux mensonges. Le téléphone, c'est amusant, on s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
Allô?
Zut, c'est coup.
Et oui, le téléphone, c'était merveilleux à l'époque de Chacun sa chance, ce film où l'on entendait donc Jean Sablon en 1930. Aujourd'hui, vous savez, c'est plus compliqué. Vous avez remarqué, ça coupe tout le temps maintenant avec nos téléphones mobiles, les conversations. C'est dur d'avoir une vraie conversation tranquille comme on avait avant. Cela dit, c'était pas non plus toujours le rêve avant. Je m'en suis aperçu en retrouvant cette conversation téléphonique de Marguerite Deval, merveilleuse, immense actrice qui a traversé plus de 50 ans de cinéma et de théâtre français et aussi de chansons. Et bien justement, elle nous fait part des étonnantes surprises du téléphone, c'est en 1929.
Un jeune homme du meilleur monde aimait une jeune fille à l'œil bleu, mais d'une timidité profonde, il n'osait lui en faire l'aveu. Or ce jeune homme avait chez lui le téléphone, la jeune fille l'avait également. En avisant cet instrument, il se sentit d'une humeur moins poltronne. Et pris soudain d'une belle résolution, il demande la communication. Allô, allô, mademoiselle, je vous aime d'un amour extrême, et viens ici vous demander de vous épouser. Allô, allô, je serai un mari modèle, voulez-vous de moi, mademoiselle? La jeune fille se précipite dans la chambre de sa maman et lui dit, petite mère, viens bien vite, il ne faut pas perdre un moment. Car un jeune homme est là qui demande au téléphone si tu veux lui donner ma main. Réponds-lui que tu le veux bien, dépêche-toi car voilà l'appareil qui sonne. Et la maman, le cœur plein d'émotion, vient s'établir en communication. Allô? Allô? Monsieur, je serais très flattée et bien enchantée de vous accorder mon enfant. Mais auparavant, allô? Allô? Dites-moi votre fortune réelle. Et puis, monsieur, monsieur, comment on vous appelle? Cependant que la bonne dame bavarde, le front sur l'appareil penché, au bureau central par mégarde, voilà que le courant est dérangé. Et c'est au bout du fil une toute autre personne, un gentleman échangeant quelques mots avec son marchand de chevaux, dont la réponse arrive au téléphone. Le résultat de cette interversion que vient de subir la communication. croyez que je vais me laisser ainsi enrosser. Allô, allô, vous pouvez garder votre fourneau, ce n'est pas moi qui vous l'achète. Jugez de l'effet déplorable par cette réponse fut produite. La maman s'écrie misérable et la jeune fille s'évanouit. Et depuis ce jour-là, jamais au téléphone, aucune des dames ne voulut plus parler. Le jeune homme eut beau appeler, à l'appareil il ne venait personne. Le pauvre garçon mourut de consomption sans avoir eu la communication. Allô, allô, la morale de cette histoire, c'est qu'il est notoire que quand on veut téléphoner, faut d'abord sonner. Allô, allô, et puis demander qu'est-ce qui est là. On rate bien des mariages sans ça.
Marguerite Deval dans un 78 tours ultraphone numérisé grâce à notre ami de la discothèque centrale Romain Couturier. C'est vraiment une rareté qu'on a ressorti pour vous. Musique de Marcel Fournier avec au piano Jacques Météen, paroles de Germini. Marguerite Deval, née en 1866, morte en 1955. Elle avait commencé dans les années 1880 sur les planches et elle a joué pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'était donc le téléphone, les surprises du téléphone, très très précisément. On va se quitter avec un peu de musique dansante, une merveilleuse polka mazurka. Vous savez, il y a plein de danses dans les grands opéras du 19e siècle et notamment, par exemple, dans le Guillaume Tell de Rossini, ce pas de Troie qu'on ne donne malheureusement jamais en concert. Il existe heureusement en disque, c'est Ricardo Chailly qui va donc interpréter pour nous ce très très joli morceau de Rossini avec le nouvel orchestre philharmonique.
le merveilleux Pas de Trois du troisième acte de Guillaume Tell de Rossini par le National Philharmonic Orchestra et le chœur Ambrosius sous la direction de Ricardo Chailly. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Frédéric Potry, Olivier Dupré, Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine au Salon du Livre en direct, en public. Vous êtes bienvenus. Je serai en compagnie de Marie Modiano pour ses chansons et ses poésies, Jean-Pierre Guénaud qui nous parlera de Casimir Oberfeld et Philippe Chevalier qui nous parlera de Claude François. Bienvenue donc samedi prochain au Salon du Livre avec France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.